On n'ira pas aller chercher les enfants handicapés pour faire des activités, c'est nous, parents, avec des associations ou d'autres structures, qui devons faire le nécessaire.
Il n'y a rien à faire. Du coup, on propose un accueil jeune. Tu peux venir ici pour te détendre ou pour t'amuser.
Ce que j'aime dans la lecture, c'est que quand on met de l'émotion dedans, c'est comme si on faisait aussi du théâtre.
Il y a pas mal de personnes qui pensent comme nous sommes des étrangers. Il y a plus de négativité que de positivité en nous. On est venu ce soir pour montrer notre face positive.
On passe du stade d'un combat féministe à vraiment à un combat sociétal.
À vous, les Burgiens. Présenté par Inès Lombartet et Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Le festival d'Ombronnais revient pour la 43e édition. Sa directrice est notre invitée.
Et on vous emmène au musée des Soirées Bonnet avec sa nouvelle exposition, un lieu qui produisait ce noble tissu pour les grandes marques.
Et tout de suite, c'est l'actu en bref.
Bourque en bref.
Un mois de festivités pour les 40 ans de Radio B.
Et oui, si vous n'êtes pas encore au courant, Radio B a déjà 40 ans. Du 10 au 24 septembre, on fête ça tous ensemble, bénévoles, salariés, auditeurs et auditrices. C'est ouvert à tous, alors venez nous rencontrer. Le 10 septembre, les bénévoles seront à la rentrée des assos à la MCC pour vous présenter la radio. Et il y aura aussi une émission en direct. Le 14 septembre, c'est 18 rue Lazare Carnot que ça se passe, avec les portes ouvertes de la radio. Le 24 septembre, c'est la grande soirée de Radio B à la Tannerie avec une émission musicale suivie du concert du groupe de rock celtique Courant d'air. Quant à nous, nous serons les lundis prochains, le 12, en direct du café chez la Jeanne pour une émission sur l'histoire de Radio B, puis le lundi 19, en direct du Parvis de la Mairie pour parler des radios associatives avec des personnalités de l'Ain comme François Bellet, le speaker du Tour de France. C'est gratuit et ouvert à tous, des goodies Radio B seront à gagner.
Le Tour des Possibles s'est clôturé fin août.
Cet événement a lieu tous les étés. C'est une rando vélo organisée par France Nature Environnement. Les distances sont accessibles, environ 30 km par jour. Et cette année, le départ s'est fait à Lons-le-Saunier le 12 août pour atteindre Bourg-en-Bresse le 25 août. J'ai retrouvé les participants sur l'avant-dernière étape à Foissia, à la ferme de Quinte. Ils ont été accueillis par une famille de paysans boulangers. On écoute Nicole, une des participantes. Elle est non-voyante et réalise le parcours en tandem avec son copilote Alexis. Elle nous parle de son expérience. Vous avez quel âge, Nicole ?
Oh là là, 48 ans à l'envers. J'aime tout, je vis le moment présent, j'adore, c'est l'aventure, c'est un tout, des gens sympas, l'ambiance. On est en autonomie. Moi, c'est ce que j'aime, quoi. On est dans la nature, et puis, bien sûr, il y a toutes les alternatives, ça, j'adore aussi, les gens qui travaillent de leurs mains, c'est formidable aussi.
Gérard.
Alors, pourquoi vous avez participé à ce Tour des Possibles ?
Parce que j'avais déjà fait l'Alter Tour il y a 3 ans, l'ambiance et puis le fait de se balader en vélo, ça me plaisait bien, et puis avec des gens sympathiques, voilà.
Alors, je m'appelle Claude. Et c'est mon premier jour dans le Tour des Possibles. Je n'avais jamais fait. J'ai entendu parler par un ami, Julien, de Lons-le-Saunier. Et j'aime bien de toute façon le vélo, parce que je suis présidente d'une association de promotion du vélo comme moyen de déplacement au quotidien à Lons-le-Saunier, Vélo Kiri. Et du coup, j'aime bien parce qu'on se déplace à vélo, on visite des alternatives, on mange bio en général. Puis la solidarité, j'ai aidé Amadou à monter sa tente parce qu'il n'y arrivait pas du tout. Et voilà, c'est sympa. Et puis là, voilà, chez un paysan boulanger, c'est super. Voilà, je reviendrai.
Hubert Guillet et Dominique Montera font partie des organisateurs et participants du Tour des Possibles, une initiative à la base nationale appelée Alter Tour. Les organisateurs ont décidé de rester à leur échelle dans l'Ain avec des groupes de 20-30 personnes maximum. Dominique nous explique le principe de cet événement.
On fait le tour des initiatives là où on vit déjà autrement, comme il faudra sans doute vivre demain si on veut vivre un peu plus près de la nature, en consommant moins d'énergie, avec plus de solidarité aussi. Et on se déplace à vélo, mais le vélo, c'est un moyen, c'est pas une fin. C'est-à-dire qu'on fait des étapes qui sont plutôt courtes. On a une voiture balai pour ceux qui ne sont pas des cracks en vélo. Et on veut être ouvert à tous, à ceux qui pédalent régulièrement comme à ceux qui ne font presque jamais de vélo. Nous avons en permanence 2 compagnons d'Emmaüs avec nous. Et nous en aurons eu 6 au total parce qu'ils sont à chaque fois 2 sur le Tour des Possibles. Et ils se remplacent, ils font à chaque fois 3 ou 4 jours.
Si on devait résumer les valeurs, les grandes valeurs de ce Tour des Possibles, ce seraient lesquelles ?
Ah, moi, je vois déjà deux mots, et puis mes collègues vont compléter. C'est le mot écologie et le mot solidarité. Il faut vivre plus sobrement et d'une sobriété heureuse. L'écologie ne doit pas être une écologie triste.
Le fort des forts, c'est que il y a des rencontres, des belles rencontres, avec des gens qui sont d'une disponibilité forte. Et ils nous présentent leur état d'esprit jusqu'à leur présentation économique. Et c'est vrai que c'est des gens qui sont étonnants. Souvent d'ailleurs, avec des passés, des parcours professionnels étonnants. Ce sont des personnages.
Et pour cette avant-dernière étape, les participants ont visité la fabrique de pain de la ferme de Quinte, une ferme qui vise l'autosuffisance. On vous en parlera fin octobre dans l'émission « Vous avez la solution », restez à l'écoute. Et pour participer au prochain Tour des Possibles, ce sera l'été prochain et vous pouvez suivre la page Facebook FNE1 pour avoir toutes les informations.
Première rentrée pour les étudiants du PASS à Bourg-en-Bresse.
Le PASS, c'est le parcours spécifique accès santé. C'est une année spécifique pour se préparer à intégrer 5 filières de santé, maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie et kinésithérapie. Cette formation de l'Université Lyon 1 peut maintenant se suivre depuis Bourg-en-Bresse. 50 étudiants vont assister au cours en simultané via un écran. Et avec cette année à Bourg-en-Bresse, l'Université Lyon 1 et le département veulent permettre aux lycéens de zone rurale de rester près de chez eux et donc de réduire les coûts pour se loger ou encore se déplacer.
Un temps d'échange entre les parents et leurs enfants de 0 à 18 ans.
Son nom, le Jardin d'Alexandre. Le principe, donner aux parents des astuces pour mieux comprendre leurs enfants. C'est un rendez-vous individuel accompagné par 2 travailleurs sociaux et une psychologue. Les parents et les enfants pourront s'entretenir avec ces professionnels. Pour en savoir plus sur le Jardin d'Alexandre, le Centre socio-culturel de la Grande Ressouze propose une après-midi entre parents ce vendredi 9 septembre à 14h au Square Louis-Parent. Repli à l'espace culturel Torterelle, place Alphonse Dupont en cas de pluie. C'est gratuit et ouvert à tous.
L'association Le Repère ne sera plus un bar.
Situé rue Charles Robin à Bourg, le bar associatif arrête son activité à partir de fin septembre, mais les ateliers et l'outil tech de l'association continuent d'exister. Retrouvez leur actualité sur leur page Facebook ou leur site Le Repère, REPR.fr.
T'en vas encore ? Le festival de danse est de retour.
Après 3 ans, le festival revient pour sa 11e édition. De nombreux événements sont organisés du 6 au 11 septembre. C'est le groupe Nuit qui organise en partenariat avec plusieurs structures culturelles de Bourg. On écoute son organisatrice.
Bonjour, je suis Astrid Maillère, je suis programmatrice du festival T'en veux encore et je suis aussi chorégraphe et danseuse de Groupe Nuit, qui est l'association qui accueille et qui héberge le festival. Ce festival, cette année, il va être plein de surprises, à la fois parce qu'il y a des spectacles très festifs qui vont vraiment nous donner envie de danser, et puis il y a des ateliers qui vont être donnés à plusieurs moments du festival où on va pouvoir essayer la danse contemporaine, la kizomba, la méditation.
Et parmi les événements, la fête sera au rendez-vous le 9 septembre à 20h avec un bal pop.
Le projet, c'est d'inviter des complices à venir participer à des ateliers. Quand ils sont en atelier, on les appelle les ambianceurs, les ambianceuses. L'idée, c'est de leur donner un peu le groove pour qu'au fur et à mesure, quand il y aura le spectacle, ils puissent inviter le public à se désinhiber et à prendre la scène eux aussi. Au départ, on croit que c'est un spectacle de 2 danseurs. Au fur et à mesure, il y a des complices qui remplissent la scène et on se dit ok, en fait, ils sont super nombreux. Et au fur et à mesure, on invite le public et là, il y a 3 ans, ça avait très très bien fonctionné. Toute l'Esplanade de la Comédie, il y avait 300 personnes qui dansaient. Et on enchaîne avec Joub, qui est un DJ, mix, musicien, qui va construire sa musique à partir d'un vélo et qui fait une musique hyper énergique, dynamique, qui groove aussi. Et du coup, on va pouvoir danser pendant 1h30 à la suite du bal pop.
Parmi les partenaires, le Cinémateur, qui rediffuse le film Encore de Cédric Clapiche pour l'ouverture du festival ce mardi 6 septembre. Et aussi le Théâtre de Bourg, devenu scène nationale. On écoute Vincent Rochelecca, directeur du théâtre. Il nous parle de l'un des spectacles de ce festival.
Il y a plusieurs spectacles auxquels on est attaché, mais celui qu'on a particulièrement envie de mettre en avant, c'est celui du samedi soir, parce qu'on a la chance d'accueillir Yuval Pic, qui est certes un chorégraphe voisin, hein, puisqu'il dirige le Centre National de la Danse à Rieux-la-Pape, à côté de Lyon. Mais c'est un artiste qui a une carrière internationale depuis plus de 20 ans. Et la proposition qu'on accueille le samedi soir, qui est une proposition qui n'a pas été encore très énormément vue, puisqu'elle est sortie il y a moins de 2 ans, et puis avec les difficultés des tournées Covid, tout ça, il n'y a pas eu encore énormément de dates. C'est une proposition qu'on est allé repérer à Paris, avec 8 danseurs sur scène, qui sont tous au diapason, enfin c'est quasiment que des motifs de groupe et une écriture d'ensemble, sur une musique de Bach, très épurée, et ça danse vraiment au top niveau. Tous les danseurs ont des carrières internationales, enfin c'est vraiment une proposition le samedi soir qui va être assez forte. Et Yuval Pic, nous, ça fait bien 10 ans qu'on ne l'a pas accueilli, et voilà, on est ravis de proposer ça au public burgien le samedi soir.
Et pour découvrir ce spectacle, c'est samedi 10 septembre au Théâtre de Bourg à 21h. Toute la programmation du festival T'en veux encore, c'est sur le site www.groupenuit.com.
Miss France dans l'Ain avec Centre Commerce Bourg.
L'association des commerçants burgiens organise un gala le jeudi 22 septembre. C'est au Monastère Royal de Broue et vous pourrez assister à un défilé avec 100 tenues à retrouver dans les magasins de la ville. Et ensuite, place à un concert de jazz manouche. Et pour l'occasion, Diane Lair, Miss France 2022, sera aussi de la soirée. L'entrée est à partir de 25€ et vous pouvez réserver sur www.centrecommercebourg.com.
C'est bientôt la 43e édition du Festival d'Ambronay.
Du 16 au 9 octobre, c'est le Festival de musique baroque d'Ambronay. On écoute Isabelle Battioni, la directrice du Centre culturel de rencontre d'Ambronay.
Le festival, qui s'appelle Enjeu, à la fois Enjeu et En-jeu. Et on est sur 4 week-ends en fait, qui ont des thèmes un peu différents. Le premier, ça s'ouvre sur le 16 septembre. Au moment des Journées européennes des patrimoines, sur cette notion de notre rapport au temps et notre rapport à l'histoire et ce rapport au patrimoine que l'on peut avoir. Le deuxième week-end, le 23 septembre, autour des notions de commande et d'hybridation, on aura vraiment toute une nuit à la salle polyvalente avec 50-50 entre qui mêle électro, musique contemporaine et électro, donc avec musique ancienne. Et on a le troisième week-end. Alors, c'est vraiment, j'y tiens beaucoup, c'est autour des femmes qui ont créé leurs ensembles ou des compositrices qu'on a appelées talentueuses, parce que nous avons aussi du talent, n'est-ce pas, mesdames ? Les hommes aussi, mais les femmes aussi. Il y aura par exemple les Aura Singers qui viennent pour la première fois en France, hein, avec un ensemble dirigé par Suzy Digby qui a été créé en 2016. Voilà, c'est vraiment ce moment-là qui compte aussi. Et le dernier week-end, c'est vraiment la place aux jeunes. On les a appelés virtuoses parce qu'en ce qui nous concerne, ils ont beaucoup de talent et beaucoup de virtuosité. Voilà, c'est un week-end tremplin comme on le fait dans le jazz. C'est vrai que c'est un pari. Donc vraiment, les tarifs sont tout à fait accessibles, en particulier pour ce week-end-là. Et c'est l'idée d'oser découvrir la jeunesse, quoi. C'est sympa parce que c'est très différent des autres concerts.
Si vous deviez décrire la musique baroque, pour ceux qui ne connaissent pas.
C'est une musique d'invention sur des instruments, qui sont des instruments qu'on dit anciens, mais en fait, c'est souvent des reconstitutions. Et où, en fait, chaque musicien a un timbre propre. Par rapport à la musique dite classique, on est sur la masse chorale. Et finalement, dans la musique baroque, on est sur des individualités qui se réunissent pour faire de la musique ensemble.
Alors pour découvrir ou redécouvrir la musique baroque, vous pouvez prendre vos places sur festival.ambronay.org et retrouver tout de suite l'interview de la directrice du CCR d'Ambronay.
L'invité de Radio B.
Le Festival de musique baroque d'Ambronay, c'est du 16 septembre au 9 octobre. C'est grâce à lui qu'est né le CCR, le Centre culturel de rencontre d'Ambronay. Isabelle Battioni en est la directrice.
On connaît souvent le Festival d'Ambronay. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est un CCR, un Centre culturel de rencontre, qui maintenant le gère. Et ce CCR est né grâce au festival et grâce à des bénévoles. Et c'est grâce à cette énergie qui a fait d'un festival modeste, hein, au départ, avec 30 000 francs de soutien. Il est passé à 1 million d'euros, en fait, avec, par exemple, une administratrice bénévole. C'est ensuite qu'il y a une administratrice professionnelle qui est venue. Donc, en fait, c'est un parcours remarquable d'une société civile qui s'est emparée d'un projet, qui a fait mouche, parce qu'il y avait une acoustique magistrale dans l'abbatiale, parce qu'il y avait un mouvement musical qui était en devenir, qui était la musique baroque. Dans les années 80-90, c'était vraiment un vent de fraîcheur qui soufflait dans les musiques de patrimoine. Et ça a permis en fait de fédérer des partenaires avec le département qui avait commencé à engager une politique pour remembrer en fait ce site. Il y a l'État qui est venu, il y a la région qui est venue. La mairie était à nos côtés. Ce label, la méthodologie justement de ce label, a permis de structurer ce partenariat de manière forte. Et c'est comme ça qu'il y a une candidature au label autour d'un thème qui était musique et sacré, parce que c'était la seule abbatiale, finalement, la seule église qui était encore paroissiale dans le réseau. Il y a eu plein de nouveaux projets qui sont dégagés à l'année, avec par exemple la médiation, l'Académie baroque qui a pris son envol, les visites, la recherche, les éditions d'Ambronay. En fait, ça donne un peu un exemple de ce que c'est qu'un CCR. C'est une offre qui est très diversifiée, qui est à l'année, avec les populations du coin et les associations locales aussi. Et ça permet de vivre au-delà d'un événementiel.
Ces centres culturels de rencontre, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas du tout ?
Oui, c'est quelque chose en fait, qui date des années 70. Ça a une longue histoire et c'était très innovant. Ça l'est toujours, hein, bien des égards. Et c'est les grands fondateurs des politiques culturelles françaises qui les ont imaginées. Ils ont décidé d'avoir un petit hobby comme ça à côté de leurs exercices de ministre, hein, qui était de monter un réseau autour d'une idée qui était simple, mais vraiment très neuve, de ces sites qui appartenaient plutôt à des collectivités ou à des propriétaires privés, de trouver une manière de les rénover, mais à partir d'un projet, plutôt que de les rénover comme un équipement. Et de faire un lien entre ce projet qui était fort, une base de résidence quand même, c'est des monuments qui sont habités et vivants. On parle aussi de patrimoine et de tourisme, mais on parle aussi de ressources propres et de modèles économiques, ce qui dans les années 70 en France en thème, était quand même assez nouveau. Donc c'était vraiment ce lien entre un territoire, un projet de transmission, un monument qui avait besoin d'être rénové, et un projet culturel, un partenariat qui se crée autour de tout ça, entre l'État, les collectivités, le modèle, les partenaires publics, les partenaires privés, le tourisme, les visiteurs qui viennent dans des festivals, etc. De façon à ce que la rénovation d'un site soit concomitante d'un projet. Et c'est devenu en fait un label qui a été créé par la société civile. Donc c'est en ce sens-là que c'est très nouveau, mais qui avait été concédé à l'État à ses origines. Et depuis la loi Liberté de création, architecture et patrimoine, c'est devenu un label du ministère de la Culture et c'est le seul label qui soit placé au niveau des territoires.
Pour l'évolution de ce CCR, donc vous êtes un peu la personne qui va faire les projets à venir. Est-ce que vous avez déjà vu des évolutions entre ce qu'était le CCR dans le passé et ce qu'il est aujourd'hui ou ce qu'il va devenir ?
Sur les projets que l'on veut faire, c'est vraiment de se structurer, de faire monter ces notions autour de l'ensemble des patrimoines. Donc c'est un patrimoine bâti, bien sûr, parce qu'on est dans une ancienne abbaye. Mais il y a le patrimoine naturel avec nos espaces autour, parce qu'il y a des très beaux espaces autour de l'abbaye. Il y avait des parcs, il y avait des jardins, etc. On est encore une fois dans le Bugey, on est à mi-chemin entre la plaine et les rives de l'Ain et les Alimes. Et les hauteurs, donc on est dans un endroit de transformation aussi dû au changement climatique. Donc ça fait partie des endroits qu'on aimerait pouvoir en tout cas explorer, envisager des jardins autrement. Et puis il y a le patrimoine immatériel, il y a le patrimoine des habitants, il y a le patrimoine du geste, il y a le patrimoine du musicien aussi. Parce qu'on est, nous on s'inscrit sincèrement en Brenay à marquer l'histoire de la musique baroque. Simplement ça ne s'est pas encore écrit cette histoire-là. Donc on a besoin aussi de l'écrire et de garder cette mémoire-là. Donc ça fait partie de tout un volet qui s'inscrit aussi dans une valorisation et dans des circuits touristiques qui sont sur lesquels nous, on est un peu présents, mais pas autant qu'on pourrait l'être. Et l'autre endroit qui pourrait être vraiment intéressant d'explorer, c'est la question des territoires et de la participation. Comment est-ce que des personnes peuvent participer de manière concrète aussi à des programmations, à des projets, et qu'on soit vraiment un pôle ressource sur le territoire. On reste un lieu de résidence avec au niveau national, parce que c'est ce qui vaut aussi label au ministère de la Culture. Et comment est-ce qu'on tient les deux bouts entre cette exigence au niveau national d'être un endroit de réflexion, de prospective, d'expérimentation pour pouvoir envisager les modalités futures et comment, sur un territoire, on est aussi un lieu ressource dans un endroit qui est le nôtre autour d'une forme de musique, certes ancienne, mais en tout cas de repères de musique, de lieux pour les associations locales, pour les chorales, et pas que, pour tout un territoire, pour des jeunes qui veulent imaginer quelque chose, etc. Donc c'est cette réflexion-là que l'on est en train d'avoir pour l'avenir.
Isabelle Battioni, directrice du Centre culturel de rencontres d'Ambronay. Pour retrouver toute l'actualité du CCR, il y a le site ambronay.org. Vous y trouverez aussi toutes les informations sur le Festival de musique baroque. C'est du 16 septembre au 9 octobre.
Ça fait très plaisir de voir autant de cyclistes réunis à Bourg cet après-midi.
Là, on est sur des arbres qui ont un peu plus de 100 ans, 100-120 ans.
En reportage avec Radio B.
Inès, vous nous emmenez à la découverte de l'une des plus grandes soirées de France, à Jugerieux.
Créée au début du 19e siècle, les soirées bonnets étaient un lieu où des tissus étaient fabriqués pour la haute couture. Plus de 2000 personnes, à Jugerieux et aux alentours, travaillaient pour cette manufacture. Elle a fermé ses portes en 2001. Deux ans plus tard, le lieu est classé monument historique. Depuis, il revit grâce au tourisme. Vous pouvez visiter les anciens bâtiments avec le matériel de l'époque. Une nouvelle expo a aussi été lancée à l'été 2022, « Luxe, mode et sensualité ». Juste avant de la découvrir, nous assistons à l'un des ateliers proposés par le musée. Marianne, médiatrice culturelle, anime une séance de peinture sur soie.
Bienvenue à cet atelier de peinture sur soie. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà, je vais vous montrer quelques tissus qui ont été produits sur le site et la manière dont on avait de les ennoblir. Alors ennoblir un tissu, ça va être rajouter de la couleur, rajouter des motifs sur un tissu à la base tout blanc par exemple. Alors je vais vous montrer trois tissus différents, et vous allez essayer de deviner comment est-ce qu'on a rajouté la couleur. À votre avis, comment est-ce qu'on a rajouté les motifs des fleurs ?
C'est imprimé.
C'est imprimé, donc avec un système particulier qu'on appelle l'impression au cadre. C'est un système de sérigraphie, on a superposé des pochoirs différents pour obtenir ça. Donc je vous rassure, ça, vous n'allez pas le faire. Celui-là, ça a été trempé dans des bains de teinture.
D'accord.
À nouveau, je vous rassure, vous n'allez pas faire ça. Je ne vais pas vous demander de tisser et je ne vais pas non plus vous confier des cubes de teinture. Tout va bien. Et donc, je vais vous montrer un autre.
Ça, c'est pas.
Ça, c'est de la peinture, effectivement. Et ça a été peint sur une mousseline de soie. Donc, ce que vous, vous allez faire pendant cet atelier, c'est exactement ce travail-là. La soie absorbe énormément la couleur et fuse beaucoup. C'est un peu comme si on peignait à l'aquarelle. Ça donne un résultat similaire, la peinture va beaucoup s'étendre. Donc n'essayez pas de me faire des choses trop minutieuses, vous n'y arriverez pas. Vous avez positionné devant vous un cadre avec une mousseline de soie bien tendue, c'est pour vous faciliter le travail. Donc c'est avec cette mousseline que vous allez repartir. Vous avez à côté des pots de peinture, un pot d'eau. Je vais vous distribuer un pinceau, je vais vous laisser choisir celui que vous préférez. Il ne faut pas mouiller votre pinceau avant de le mettre dans le pot de peinture.
Je m'appelle Léane, j'ai 12 ans.
Qu'est-ce que tu as décidé de faire aujourd'hui ?
Je vais essayer de faire un paysage, donc avec des montagnes. Et je sens que ça va être galère, mais je vais essayer de faire des petites étoiles. Et je suis déjà venue ici pour un atelier de mode.
Tu viens d'où ?
Je viens de Villeurbanne, vers Lyon.
François.
François, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui ?
Ouh là, une fleur, j'essaye.
Et pourquoi vous avez voulu venir aujourd'hui ?
Parce que je suis président d'une association, j'ai eu des adeptes qui voulaient venir faire un stage, donc je suis venu avec elles.
Moi j'essaye de faire une rose, c'est pas évident quand même. Hein.
Et voilà. Alors juste pendant l'heure qui suit, essayez de le maintenir à l'horizontale comme ça. Si vous mettez le tissu à la verticale, la couleur risque de couler un petit peu.
Vous êtes satisfait de vos dessins ?
Pas trop,
non.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui va pas ?
Bah, ça diffuse dans le tissu, donc après on maîtrise pas en fait. C'est la difficulté.
J'avais bien réussi ma montagne, mais j'ai un peu gâché le détour en faisant les étoiles. Du coup, j'ai essayé de rattraper, mais j'attends que ça sèche pour voir le résultat.
Et à la fin de l'atelier, nous allons à l'extérieur du bâtiment pour comprendre le travail de la soie et découvrir la nouvelle exposition « Luxe, mode et sensualité ».
Bonjour, Nathalie Foron-Dauphin, je suis responsable scientifique et culturelle du musée des soieries Bonnet. Là, on est au plein cœur du clos industriel, du site industriel. Alors, sans l'image, mais juste avec le son, il faut s'imaginer au milieu de grands bâtiments en pierre qui sont complètement ancrés dans le 19e siècle et qui nous plongent dans une grande aventure industrielle sur plus de 200 ans d'épopée textile. C'est surtout à l'origine la première usine des établissements Bonnet qui sont nés à Lyon en 1810. Là, on démarre la visite en général sous le buste de Claude-Joseph Bonnet, qui est natif de Jugerieux. Et donc, cette maison de soierie lyonnaise qui a produit des soies et donné à tisser au canut de Lyon, eh bien, le fondateur a décidé, au bout de 25 ans d'aventure industrielle, de passer de fabricant à fabricant manufacturier. Le fabricant, en fait, lui, ne fabrique pas, il donne à tisser, et le manufacturier fabrique. Pour devenir fabricant manufacturier, il établit dans son village d'origine à Jugerieux une très vaste manufacture de soie tournée vers la préparation du précieux fil aux origines.
Et on continue la visite dans la nouvelle exposition « Luxe, mode et sensualité ».
Donc l'exposition « Luxe, mode et sensualité » démarre autour d'un module complètement immersif que l'on a conçu comme un cocon pour entrer dans la matière. L'idée, c'était de découvrir par les sens la matière même de la soie avant même de découvrir ce qu'est l'histoire de la soie. On peut toucher des étoffes, comprendre la différence entre un taffetas, un satin, une mousseline, enfin tous des mots qui font voyager autour de la soie, qui est suivi par un cabinet de curiosité sur l'histoire de la soie depuis sa découverte en Chine en 2640 avant notre ère, jusqu'à son arrivée en France, à Lyon, pour comprendre comment en fait la soie est installée à Lyon déjà et pourquoi nous avons aujourd'hui un musée de soierie à Jugerieux. Enfin, dans ce module immersif, on découvre la matière elle-même à travers un élevage de vers à soie, parce que la soie, c'est une matière naturelle, une matière animale. C'est vraiment la soie du vers à soie, qui est la chenille d'un papillon, du Bombyx mori. Donc nous avons un élevage, et ça captive tout le monde de voir ces charmantes petites bêtes qui sont à l'origine du précieux fil.
Et oui, c'est bien un insecte qui est à l'origine de ce tissu si noble et si prisé dans l'industrie de la mode. Un cocon de verre à soie, c'est 1 km de fil de soie. Pour le dérouler, il faut le tremper dans l'eau bouillante, puis le tirer délicatement. Et pour faire un carré de soie, 3000 cocons sont nécessaires. On poursuit la visite avec de belles robes exposées.
L'exposition après le cocon de soie se prolonge avec une galerie de la mode qui est une boîte noire baignée de couleurs et de lumière qui nous plonge dans un panorama de la mode du 19e siècle au 20e siècle qui est mis en perspective avec l'histoire des soieries Bonnet. Et nous avons sorti pour la première fois des réserves départementales toute une sélection de tenues et de robes qui montre voilà, l'évolution de la silhouette, les usages de la soie. Et en filigrane, on découvre aussi l'évolution de la place des femmes dans la société. C'est sûr qu'une robe du milieu du 19e siècle et une robe d'un grand couturier du début du 21e siècle, on voit que la vie a changé, la place des femmes a changé. Et on assiste à une libération en fait, relative des femmes dans la société.
Alors, première robe, est-ce que vous pouvez nous la décrire ?
Ah oui, alors c'est une robe. Alors, je pense, sans avoir l'image, on peut se plonger dans l'univers de Sissi impératrice. Alors, en France, c'est à l'époque du Second Empire, sous Napoléon III, avec des jupes en forme de cloche. La taille est très cintrée, très serrée, et on a beaucoup d'amplitude sur le bas de la robe et des corsages magnifiques là en soie. Enfin, on a tout un ensemble couleur marron glacé avec un haut, avec un taffetas effet changeant. C'est vraiment une pièce magnifique. On parle évidemment de vêtements bourgeois. Hein. Les femmes dans les campagnes ne portaient pas ce type de robe. On sent bien que c'est pas du tout commode à porter. Et les femmes à l'époque, ces élégantes-là, en tout cas, étaient vraiment les faire-valoir de la réussite de leur réussite financière de leur époux. Et l'aisance financière supplantait l'aisance de mouvement. Il arrivait avec ce type de robe que des femmes s'envolent par temps de grand vent parce que le vent se prenait sous la jupe et elles basculaient en arrière. Alors la silhouette change tout au long du 19e siècle. Le volume se déplace, soit sur le bas de la robe, l'arrière de la robe, les manches, le cou, enfin, ça varie beaucoup. Il y a une constante à partir des années 1820, on va dire, c'est l'omniprésence des corsets qui vont complètement sculpter et modeler le corps d'une façon ou d'une autre, mais on est vraiment dans un corps avec, en présence de corps contraints et même de corps qui sont déformés par le corset. Enfin, une taille de cette taille-là, pour une personne adulte, c'est tout sauf naturel.
Organisée dans l'ordre chronologique, l'exposition nous fait avancer vers la fin du corset. C'est une véritable libération pour la femme et ce n'est que le début.
Quand on parcourt l'expo, on perçoit à quel point en fait la mode est contrastante entre la fin du 19e siècle, enfin avec le 19e siècle évidemment, et l'époque de l'entre-deux-guerres. On passe vraiment de robes qui vont complètement couvrir le corps. Et la période des années folles vient complètement en rupture avec toute cette tradition. On découvre l'androgynie, des robes qui vont gommer le corps, et puis aussi des robes assez somptueuses qui sont prévues pour les grandes fêtes. On veut oublier la guerre, les fêtes, le Charleston. Alors des robes avec des perles, des sequins. On a une magnifique robe qui nous a été prêtée par le couturier Denis Durand, qui est dans des tons de rose avec un décor de plumes serties de perles, voilà, de différentes matières. Et on s'imagine dans les folles soirées parisiennes.
L'exposition se poursuit avec le règne des marques dans les années 80-90. Le luxe devient accessible avec des accessoires comme les foulards, les sacs. On découvre aussi quelques créateurs de mode contemporain de lin, Sylvie Berry, Hélène Butet et Hugo Desloges. Pour l'occasion, ils ont eu carte blanche avec des tissus des soirées bonnets pour réaliser leurs tenues. À vous de venir les découvrir sur place à Jujurieux. Et il y a aussi toute une exposition permanente qui raconte la vie dans la manufacture, des jeunes filles arrivées dès l'adolescence en pensionnat pour faire vivre la soirée. Le musée des soirées bonnets à Jujurieux est ouvert jusqu'au 13 novembre, du mardi au dimanche, et des ateliers sont organisés pendant les vacances de la Toussaint. Toutes les infos sont sur le site www.cerdonvalleydelin.fr.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
Et on se retrouve lundi prochain sur le 90 FM et en direct du café Chez la Jeanne, en plein centre-ville de Bourg-en-Bresse. On vous attend.
On n'ira pas aller chercher les enfants handicapés pour faire des activités. C'est nous, parents, avec des associations ou d'autres structures, qui devons faire le nécessaire.
Il n'y a rien à faire. En fait. Du coup, on propose un accueil jeune. Tu peux venir ici pour te détendre ou pour t'amuser.
Ce que j'aime dans la lecture, c'est que quand on met de l'émotion dedans, c'est comme si on faisait aussi du théâtre.
Il y a pas mal de personnes qui pensent comme nous sommes des étrangers. Il y a plus de négativité que de positivité en nous. On est venu ce soir pour montrer notre face positive.
On passe du stade d'un combat féministe à vraiment à un combat sociétal.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombartet et Audrey Radondi.